Reviennent cette semaine sur cet anniversaire qui approche, celui des attentats de Charlie Hebdo à Paris, c'était le 7 janvier 2015. Et puis si les abeilles disparaissent, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette phrase faussement attribuée à Albert Einstein et depuis légèrement atténuée, disons, par les scientifiques, n'en a pas moins marqué un jeune Mauritanien qui a décidé de se lancer dans l'apiculture pour tenter de sauver ces abeilles si précieuses pour l'ensemble de l'humanité. Rencontre à suivre dans l'Afrique en marche dans quelques minutes. Mais d'abord le sport. Bonjour Christophe Diremire.
Bonjour Gaëtan.
Du football, les clubs de RDC pas très bien partis pour voir les quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux défaites hier à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupe.
Oui, avec dans chaque cas la conséquence de se retrouver au fond du classement de leur groupe respectif à deux journées de la fin. Le tout puissant Mazembe a surtout été très impuissant en Tanzanie, battu 3-1 chez les Young Africans qui prennent la troisième place à leurs adversaires du jour. Avec seulement deux petits points au compteur dans la poule A, les Corbeaux joueront très gros sur les 15 prochains jours contre le Mouloudia d'Alger et les leaders actuels, les Soudanais d'Al Hilal. Ces deux équipes qui s'affrontent d'ailleurs aujourd'hui à 19h, temps universel. Autre lanterne rouge congolaise dans le groupe B cette fois, Maniema battu 2-0 sur la pelouse des Marocains de l'Asfar. L'Asfar seul leader après la chute des Mamelodi Sundowns au Raja Casablanca 1-0.
Également bon dernier mais dans une situation encore plus désespérée, c'est dans le groupe C, le Stade d'Abidjan.
Dominé 3-0 à Johannesburg par Orlando Pirates, nouveau leader avec un seul point pour les Ivoiriens quand les doubles tenants du titre Al Ahly, deuxième, en ont déjà 7. L'élimination, on peut le dire, est assez proche et l'expérience pour espérer mieux insuffisante, concède l'entraîneur Alexandre Lafitte, contraint de rester en tribune pour ce match car il était suspendu.
L'adversaire a été supérieur. Pour moi, c'était un match particulier parce que j'ai pas pu avoir accès avec le vestiaire à la mi-temps. Orlando a bloqué exprès, comme malheureusement je peux pas être sur le banc, et puis on a eu des difficultés pour les changements. Donc ça a été un match difficile pour moi à manager, et voilà, la victoire est méritée pour Orlando. On n'est pas habitué à jouer dans des stades avec autant de pression. Je pense qu'on a été un peu timoré. Voilà, il y a pas mal d'ingrédients, mais qui fait que la qualité fait que c'est différent. Et on apprend, c'est un niveau qu'on ne maîtrise pas. Le club n'est pas encore prêt, mais on a eu la chance de faire cet exploit pour y être. Donc il faut qu'on continue à travailler. Faut apprendre, on va faire un gros travail la vidéo. Et je pense que tous ces matchs, ils nous permettent de grandir.
Alexandre Lafitte avec Joséphine Klöckner, hormis Al Hilal Mouloudia. Deux autres matchs à suivre ce dimanche dans le groupe D à 16h TU. Les Égyptiens de Pyramids contre l'Espérance Tunis et les Angolais de Sagrada Esperance face aux Maliens de Djoliba.
Journée complète également, Christophe, en Coupe de la Confédération.
Parmi les nombreuses rencontres au programme, le duel des deux premiers du groupe B, les Marocains de la Renaissance de Berkane contre le Stade Malien. Une première manche perdue par le Stade Malien le 15 décembre, mais une confiance en la qualification restée intacte de la part de l'entraîneur Mamoudou Kané.
On est en deuxième position, mais c'est une poule très très difficile, très élevée. Avec ces 4 points, on a nos sens. Contre le premier, tout ce qu'il faut, il faut être patient. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je pense que ce jour, nous allons utiliser une stratégie adoptée pour qu'on puisse avoir leur faiblesse et profiter de cette faiblesse et scorer par rapport à si on arrive à scorer, qu'on arrive à très bien défendre pour qu'ils ne puissent pas marquer. Il nous faut obligatoirement les 3 points ici.
Mamoudou Kané, Berkane, Stade Malien, coup d'envoi 19h, temps universel. Dans le groupe C, l'ASEC Mimosa reçoit à 16h TU les leaders, les Algériens de l'USMA, vainqueurs du match aller il y a 3 semaines, 3-0. Au même moment, les Sénégalais du Jaraf accueilleront les Botswanais d'Orapa United. Et puis un petit détour par la France, la Ligue 1, pour vous signaler la victoire de Saint-Etienne sur Reims 3-1 grâce notamment à un doublé du Ghanéen Augustin Boakai. Les Verts et leur nouvel entraîneur, le Norvégien Erik Horneland, sont 14e au classement.
Merci Christophe Diremjean, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal des sports. Et on passe à la revue de presse des hebdomadaires et des journaux du dimanche. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
À la une, le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo.
Déjà 10 ans, s'exclame Marianne, 10 ans que l'équipe du journal satirique a été décimée par les frères Kouachi, auteurs de cet attentat islamiste. Un anniversaire que les hebdomadaires commémorent chacun à leur manière. Marianne a cherché à savoir comment les survivants ont surmonté cette épreuve et comment ils vivent aujourd'hui à l'ombre des les portiques de sécurité, nous dit l'hebdomadaire. Charlie Hebdo continue de jongler entre le poids des drames passés et l'insolence joyeuse du quotidien. Rédacteur en chef Gérard Biard s'exprime ainsi. La rédaction doit être un sanctuaire, mais non un mausolée. Ils sont toujours vivants, dit-il en évoquant ses amis tombés le 7 janvier 2015. Le drame n'habite pas nos journées, par pudeur autant que par volonté d'aller au-delà de ce qui s'est passé, explique de son côté Laure Dossy, reportrice à Charlie Hebdo. Le journal qui doit aussi faire face aux réalités de 2025, comme l'explique le rédacteur en chef Gérard Biard. Il y a aujourd'hui 50% de dessins en moins dans la presse par rapport à il y a 10 ans.
Et l'Express consacre également un long article à Charlie Hebdo, Catherine.
10 ans après, que dirions-nous à ceux qui sont tombés, interroge l'hebdomadaire. Où en sommes-nous une décennie plus tard? Hélas, le constat ne peut qu'être sombre, déplore l'Express qui questionne encore. Que dirions-nous aux morts de Charlie Hebdo, que la liberté d'expression a triomphé? Il faudrait leur taire la vérité. Samuel Paty, décapité à la sortie de son collège pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression à ses élèves de 4e et se faisant montrer deux caricatures de Mahomet publiées par Charlie. Dirions-nous que la République tient ferme face à l'islamisme, interroge encore l'Express, que l'antisémitisme a reculé alors que depuis le 7 octobre 2023, il a flambé comme jamais depuis des décennies. Cet anniversaire n'est pas seulement triste parce qu'il commémore des attentats qui ont meurtri la France, conclut l'Express. Il l'est aussi parce que, 10 ans plus tard, on ne peut s'empêcher de tirer un sombre bilan.
À la une de la presse hebdomadaire également, la Syrie après la chute de Bachar al-Assad.
L'envoyé spécial du Nouvel Obs a visité la prison de Sennaïa avec un ancien détenu. Il s'appelle Yassine. Il nous a confié l'indicible, explique l'hebdomadaire. Les tortures des hommes du régime, de celles qui, dit-il, te tuent lentement et te rendent comme un mort-vivant. Il nous a dit qu'au fond de lui, il ne ressentait ni joie ni peine, qu'il n'était plus un homme, juste un corps tordu de souffrance. Mais Yassine veut témoigner et que son témoignage serve de preuve des crimes de Bachar. Yassine décrit l'enfer. L'enfer, explique le Nouvel Obs, c'est une petite porte qui descend au sous-sol. Il n'y a là pas un ray de lumière, alors on se repère au chuchotement horrifié de quelques silhouettes qui cherchent à la lumière de leur portable une trace de ceux qui ne sont jamais revenus. Au bout du couloir, poursuit le Nouvel Obs, derrière des grilles, Yassine nous montre une bassine rouge encore remplie d'eau glacée dans laquelle les gardiens plongeaient la tête des prisonniers jusqu'à les laisser inconscients, les réveiller avec un coup de matraque et recommencer. Et ce n'est pas tout, les tortionnaires du régime de Damas faisaient preuve d'une imagination sans bornes dans la cruauté, à tel point que c'en est, comme le dit le Nouvel Obs, indicible.
À lire également cette semaine, Catherine, un article du Point sur Elon Musk.
Jusqu'où ira l'extravagant Monsieur Musk, se demande le Point, précisant que le serial entrepreneur Tesla, SpaceX, Grok, X s'apprête à prendre une responsabilité de poids auprès de Donald Trump. Comment le décrire? C'est une personnalité hors du commun qui détonne par ses idées extraterrestres, un caractère imprévisible et un sens militaire de l'exécution, estime le Point qui se demande encore qui arrêtera la fusée Musk. Le Point qui ne cache pas son admiration et observe une cohérence dans ses 1000 projets. Si Elon Musk a fait ricaner certains cadres d'Ariane Espace, son développement de fusées réutilisables fait aujourd'hui l'unanimité. Il permet aux combattants ukrainiens, ajoute le Point, d'être connectés à Internet grâce à l'envoi de satellites Starlink dont ils tapissent le ciel au rythme de 300 par mois. L'hebdomadaire regrette toutefois chez cet amoureux des sciences la tentation de partager des messages incongrus, voire complotistes. Trop souvent, Musk dit des choses qui ne sont pas vraies, renchérit Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn. Quant à d'éventuelles ambitions présidentielles, Donald Trump s'est lui-même rassuré en disant que Musk ne pouvait pas être président car il n'est pas né aux États-Unis. Le milliardaire est en effet né en Afrique du Sud et n'est arrivé aux États-Unis qu'à l'âge de 24 ans. Or, précise le Point, la Constitution américaine impose que le dirigeant du pays soit né citoyen américain.
C'était la revue des Hebdo. Merci Catherine Potet. 5h52 en temps universel. Et Et l'Afrique en marche s'en va butiner en Mauritanie ce matin. Dans ce pays sahélien, un jeune start-upper a décidé de se lancer dans l'apiculture et de dispenser sa science auprès d'autres Mauritaniens et Mauritaniennes pour favoriser l'élevage des abeilles si précieuses pour leur miel, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Frédéric Gara.
Surtout, l'abeille est très fascinante. C'est même dans le Saint-Coran, Dieu a donné un sourat complet pour les abeilles. Et il a mentionné aussi que le miel, c'est un remède pour toutes les maladies.
Oumar Diallo, 34 ans, est entré en apiculture comme d'autres entrent en religion. Spécialiste des énergies renouvelables, il décide en 2018 de consacrer sa vie et son métier à la récolte du miel et donc au développement de ruches. Dès lors, il dévore tous les ouvrages disponibles sur le sujet et suit des formations au Sénégal, aux États-Unis, en Roumanie ou encore au Burkina Faso.
Et là, je me suis mis à faire des recherches. Et là, j'ai compris que les abeilles, c'est une société très organisée où il y a des ouvriers, il y a des architectes, il y a des butineuses, il y a des cirières. C'est vraiment une société très organisée. Et chaque abeille a un rôle à jouer. Et parallèlement aussi, les abeilles participent à la protection de l'environnement par la pollinisation des cultures. Et après les recherches que j'ai faites à Roumanie et aux États-Unis d'Amérique, j'ai compris que si l'abeille meurt, l'être humain n'aura que 4 ans à vivre. Donc, pas d'abeille, pas de vie. C'est la raison pour laquelle nous, on se bat jour et nuit pour développer cette filière apicole en Mauritanie d'une manière durable et responsable surtout.
Devenu expert en apiculture, il installe un peu moins de 100 ruches dans la région de Tabaïtal Mokhtar, au sud du pays, non loin du fleuve Sénégal. Non content de récolter et de commercialiser son miel dans sa start-up, Happy Dev, Oumar Diallo forme également des femmes et des jeunes Mauritaniens à l'art de développer les essaims d'abeilles et de récolter leur nectar. Il a d'ailleurs publié 2 manuels, dont un en langue fulfulde pour les peules.
Nous avons eu l'occasion de former 150 femmes, 4 coopératives féminines, dans la production du miel, mais aussi la valorisation des produits de la ruche. Nous avons récolté la cire ensemble, nous avons récolté le miel ensemble, et nous avons fait aussi des bougies à base de la cire ensemble et des savons à base de la cire d'abeille. Donc je me suis dit qu'avoir dans manuel en polar, vu qu'eux, ils comprennent la langue polar, ce serait aussi un atout pour moi. Je l'ai mis à leur disposition, ce manuel de l'apiculture moderne, durable, en polar, et eux-mêmes, ils peuvent vraiment lire, comprendre et faire de l'apiculture. Donc c'est une manière aussi de dire à la jeunesse que nous avons des ressources à exploiter, il faut y rester, il faut y croire.
Miel d'acacia, de karité, de jujubier ou encore de moringa, la variété des parfums de ces miels permet à sa marque de se vendre avec succès au-delà même de la Mauritanie. En installant ses ruches en bois ou en ciment dans les vergers ou dans les champs, il favorise en outre de meilleurs rendements pour les récoltes des paysans qui l'accueillent. Car ce n'est un secret pour personne, l'abeille est un vecteur précieux de rendement et de biodiversité, comme nous l'explique Alain Chevalier, président de l'association Happy Flore Dev.
La pollinisation par l'abeille, mellifère, joue un grand rôle dans la production agricole. La FAO a mesuré que, par exemple sur le café, c'est qu'un exemple, mais c'est vrai pour de très nombreuses cultures, l'augmentation de rendement est de 40%. C'est-à-dire qu'on double presque la production grâce à la pollinisation. Car chaque fois, pour les légumes par exemple, la pollinisation permet d'avoir des fruits de plus grosse qualité, plus réguliers, et en plus grand nombre.
Happy Flore Dev, depuis 20 ans, forme un peu partout en Afrique à l'art de l'apiculture. À son simple niveau, la start-up de Oumar Diallo a remporté plusieurs prix d'excellence et cet apiculteur heureux réinvestit le prix de ses récompenses dans l'achat de nouvelles ruches.
L'Afrique en marche avec Frédéric Gara. Le prochain journal dans 4 minutes sur RFI. Mais d'abord, la musique est notre playlist du mois. Ce matin, on vous présente ou représente Songoy Blues, l'un des groupes les plus acclamés du Mali avec ses thèmes de vie et d'amour aussi. Et dans son dernier album Héritage, ce titre Gara, bénédiction en langue songhaï, une ode aux conseils et aux bénédictions des aînés dans la société, en particulier des parents. Gara sur RFI.
Ashidunia da ira gara shidunia da bada Ashidunia da nya gara shidunia da bada Ashidunia da baba gara shidunia da bada Ashidunia da ira gara shidunia da bada Ashidunia da nya gara shidunia da bada Ashidunia da baba gara shidunia da bada
ndigara mane nanduru nyamma fala mane ndigara mane ay kul kallambo ga fala mane ndigara mane ni goye imma fala mane nyagara shikacha asi gara shikacha gaga gara shikacha wala bere gara shikacha ala bada aira gara ti darbai kanda buni jindura ji shilaybu aira gara ti sabu ba shalairangu kalama firi
Gara des Sango Blues, extrait de leur dernier album Héritage. C'est dans notre playlist du mois sur RFI. Le journal de Grégoire Morelli, c'est dans un petit peu moins d'une minute sur RFI. À tout de suite.
Édition spéciale sur RFI. Andréane Mélard.
Ce mardi 7 janvier marque les 10 ans de l'attentat terroriste mené contre le journal satirique français Charlie Hebdo. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'esprit Charlie ? Ce 7 janvier, édition spéciale sur RFI, avec nos invités, nos archives et l'ensemble de la rédaction, on s'interroge sur l'état de la liberté d'expression et du dessin de presse. Rendez-vous à partir de 6h temps universel sur RFI.